Chapitre 3. Les moqueurs et le matérialisme. Dans la partie que nous venons de considérer, l'apôtre nous a mis en garde contre les faux docteurs qui se lèveront dans le cercle chrétien. Les apôtres n'étant plus là, ces faux docteurs ont surgi annonçant des doctrines perverses et introduisant des sectes de perdition. Actes 20, versets 29 et 30, 2 Pierre 1, versets 14 et 15, 2 Pierre 2, verset 1. En conséquence, la masse des chrétiens professants se trouve entraînée dans la mondanité, l'iniquité et la corruption qui ont caractérisé la chrétienté au cours des siècles. Après donc avoir parlé des faux docteurs qui se lèveraient parmi ceux auxquels il écrivait, l'apôtre continue en nous mettant en garde contre les aspects particuliers du mal qui caractériseront la profession chrétienne au dernier jour. Verset 3. Il nous dit que ces derniers jours seront marqués par les moqueurs et le matérialisme. Versets 1 à 4. Citation de l'Écriture. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre. Et, dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent dans le même état, dès le commencement de la création. » Fin de citation. Avant de parler en détail de ces deux problèmes, l'apôtre nous prépare à les rencontrer, et nous encourage pour leur résister en nous rejetant sur la parole de Dieu. Aussi commence-t-il cette dernière partie de son épître en disant qu'il écrit pour réveiller notre pure intelligence par le rappel de ces faits à notre mémoire. Puis il nous dit clairement que nous devons nous souvenir des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Sauveur et Seigneur par les apôtres. Il ne nous adresse pas à l'Église pour être dirigés. Il ne nous invite pas davantage à attendre une révélation nouvelle, car la parole de Dieu est complète. Il nous dit de nous souvenir de ce qui a été déjà donné par inspiration. Dans la parole de Dieu, nous avons la révélation de la vérité qui dénonce tout ce qui est faux et nous permet de refuser les erreurs des faux docteurs aussi bien que le matérialisme flagrant des moqueurs. La parole est l'épée dont se sert l'esprit pour nous rendre capables de tenir ferme contre les artifices du diable. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. L'apôtre nous a rejetés sur la parole de Dieu pour faire face aux erreurs des hommes. Maintenant, il va nous mettre en garde contre les formes spéciales que revêt le mal au dernier jour de la chrétienté. Il nous dit qu'une classe de moqueurs impies se lèvera au milieu de la profession chrétienne. Comme toujours, l'incrédulité est associée à une mauvaise condition morale. L'incrédulité a sa source dans la convoitise, et ces hommes sont décrits comme marchands selon leur propre convoitise. Celui qui ne peut pas croire ce que Dieu dit, fait ce que Dieu défend. Nous apprenons ensuite ce qu'ils disent. Où est la promesse de sa venue? Il soulève des questions sur un événement qui, il le réalise bien, va contrarier la satisfaction de leur convoitise. Il nous est dit premièrement ce que ces hommes sont, des moqueurs. Deuxièmement, ce qu'ils font. Ils marchent selon leur propre convoitise. Troisièmement, ce qu'ils disent. Où est la promesse de sa venue? Enfin, les arguments dont ils se servent nous sont rapportés. Ils prétendent que le Seigneur n'interviendra bien évidemment pas dans les affaires des hommes, car, depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Cet argument est une expression flagrante du matérialisme incrédule, connu de nos jours comme le modernisme. Ces hommes ne sont pas simplement les moqueurs insouciants du monde, ils sont des moqueurs délibérés qui avancent prudemment des arguments percutants pour tâcher de prouver que les avertissements de la parole de Dieu ne sont que des fables et des traditions. Nous avons pu voir que l'apôtre, dans le cours de son épître, montre clairement qu'il y a un avenir pour les fidèles, pour les incrédules et pour la création matérielle. Dans le premier chapitre, il nous dit que les fidèles entreront dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le chapitre 2, nous apprenons que les méchants seront livrés au jugement et à la perdition. Et dans notre chapitre 3, il annonce que la création matérielle sera dissoute. Tous ces grands épisodes attendent la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 16. Nous comprenons alors, d'une part, pourquoi cet événement capital occupe une place si importante dans l'Écriture, et d'autre part, pourquoi cette grande vérité est l'objet particulier des attaques de l'ennemi. La vérité de la venue du Seigneur n'est pour personne plus désagréable que pour ceux qui, dans la profession chrétienne, marchent selon leur propre convoitise. Ils chercheront à nier un événement qu'ils redoutent en prétendant qu'il est contraire à toute expérience et par conséquent déraisonnable et impossible. Versets 5 à 7. Citation de l'Écriture. Car ils ignorent volontairement ceci, que, par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis et une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Fin de citation. Dans les versets qui suivent, l'apôtre expose la folie des arguments incrédules de ces matérialistes. Il nous a déjà préparés à répondre à leurs objections par la parole de Dieu. Maintenant, ils recourent encore à la parole pour dénoncer leur raisonnement insensé. Par leur question « Où est la promesse de sa venue ?», ils admettent que la promesse de la venue de Christ existe. Elle est même si souvent répétée dans la parole qu'il serait fou de vouloir en nier la présence. La vérité de la promesse leur étant insupportable et ne pouvant pas en nier l'existence, ils sont conduits à ignorer la parole pour être débarrassés de la promesse. Ils reconnaissent qu'elle est dans la parole, mais refusent de croire ce que Dieu dit. Ils vont même plus loin, car ils nient que Dieu l'a dit en mettant en doute l'inspiration de la parole. Se détournant de la parole, ils tirent des conclusions à partir de la création matérielle. Il parle du commencement de la création, admettant donc qu'il y a eu un commencement, mais s'opposant à Dieu dans leur esprit, ils cherchent à expliquer la création par des causes naturelles. Le croyant sait cependant que par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis et que la terre a été tirée des eaux pour devenir l'habitation de l'homme. En outre, ces moqueurs disent que depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Raisonnant à partir de ce qu'ils voient, ils tirent des conclusions quant à ce qui sera. La foi qui se détourne de ce qui est visible et s'appuie sur la parole de Dieu sait que ces arguments sont complètement faux. Les choses sont bien loin de demeurer ce qu'elles étaient dès le commencement, en raison des interventions saisissantes de Dieu en jugement. Le déluge est le principal témoignage de l'intervention de Dieu sur le cours ordinaire de la nature. Lorsque la méchanceté des hommes eut atteint son comble, et sur leur refus d'écouter sa parole prêchée par son serviteur, Dieu intervint par le jugement du déluge, par lequel le monde d'alors fut détruit. La foi, acceptant le récit que Dieu donne du déluge, a la pleine assurance que Dieu peut intervenir, et qu'il est déjà intervenu pour changer l'ordre de la nature, et que ce que Dieu a fait, il peut le refaire, et il le refera, à l'égard des cieux et de la terre de maintenant. Si, par sa parole, Dieu a amené le monde à l'existence, il peut assurément y mettre fin par sa parole. Si Dieu est intervenu en jugement, il peut le faire encore. Aussi l'apôtre dit-il, « Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardé pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. » Pour résumer les déclarations de l'apôtre, nous apprenons que, premièrement, par sa parole, Dieu a créé les cieux et la terre. Deuxièmement, par sa parole, Dieu est intervenu par un jugement qui a amené le déluge sur le monde des hommes impies, de sorte que le monde d'alors fut détruit. Troisièmement, par sa parole, les cieux et la terre de maintenant sont réservés pour le feu, gardés pour le jour du jugement des hommes impies de la génération présente. À la lumière des faits révélés par l'Écriture, nous comprenons que le moderniste incrédule nie l'inspiration des Écritures pour être débarrassé du témoignage du déluge et des promesses de la venue du Seigneur avec l'intervention divine dans le cours du monde et le jugement des impies qui en résulte. Versets 8 à 10. Citation de l'Écriture. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Fin de citation. L'apôtre a dénoncé les arguments insensés du matérialiste moqueur qui, ignorant volontairement la parole de Dieu, profite du retard dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nier la venue du Seigneur. Maintenant, il engage les bien-aimés du Seigneur à ne pas méconnaître la raison de ce délai. D'abord, le croyant est invité à se souvenir que ce qui peut paraître une longue période à nos yeux n'est qu'un court instant pour le Seigneur, car un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Deuxièmement, n'oublions jamais que la promesse est sa promesse, et que sa parole est infaillible. Troisièmement, il y a une raison au délai. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne l'accomplissement de sa promesse, mais il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dans sa grâce, Dieu laisse du temps pour la repentance avant que le jugement tombe. Dans son incrédulité, l'homme se sert de ce délai pour nier qu'il y aura jamais un jugement. Toutefois, en dépit du retard dans l'accomplissement de sa promesse, et malgré ce que les moqueurs peuvent dire, le jour du Seigneur viendra, dans lequel les cieux passeront avec un bruit sifflant et les éléments embrasés seront dissous. L'apôtre ne parle pas de la venue du Seigneur pour ses saints, ni de l'apparition du Seigneur avec eux. Il parle du jour du Seigneur, qui sera introduit par ces grands événements. C'est le jour où le Seigneur régnera sur la terre et gouvernera avec une verge de fer, réduisant d'une main ferme toute opposition contre Dieu. Ce jour est introduit par l'apparition du Seigneur, mais il se poursuivra pendant les 1000 ans du règne jusqu'à l'introduction de l'État éternel après la dernière grande intervention de Dieu en jugement. Tout l'aspect de la nature sera alors changé, car les éléments embrasés seront dissous, et toute trace des grandes œuvres par lesquelles les hommes ont cherché à se glorifier au cours des âges disparaîtront, parce que la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlés entièrement. L'apôtre adopte le langage des écrits prophétiques qui, il nous l'a déjà dit, sont comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Voir le psaume 102, verset 26, Ésaïe 34, verset 4 et 66, verset 22, Michée 1, verset 4, Zacharie 3, verset 8. Prêtez l'oreille à ses moqueurs et nier la promesse de sa venue, c'est demeurer dans les ténèbres, être entraîné sans espérance vers l'éternité, sans savoir comment tout le mal d'un monde impie sera traité, ni comment le fidèle sera introduit dans la bénédiction éternelle. Car souvenons-nous que, et le jugement des impies, et la bénédiction du fidèle, auront leur accomplissement par la venue de Christ. Si nous lâchions la promesse de sa venue, notre âme perdrait tout. Versets 11 à 16. Citation de l'Écriture. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être, en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction. Fin de citation. Mais la foi s'attache à cette promesse et a dès lors la certitude que toutes les choses visibles de l'ordre actuel du monde seront dissoutes. Comme toujours, la foi en activité doit avoir un effet sur notre vie. Elle conduira à une sainte séparation du monde qui nous entoure et qui va être dissous, mais de séparation pour la vie de piété que l'apôtre a présentée d'une manière si bénie dans le début de son épître. Marchant ainsi, nous attendrons et hâterons la venue du jour de Dieu dans lequel toute forme de mal aura disparu pour toujours. La foi fait davantage encore. Elle voit loin et nous transporte au-delà du jugement dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En étant attentif à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, l'aube d'un jour glorieux commence à luire au regard de la foi. Et l'étoile du matin, celui dont la venue introduira le jour, aura la place qui lui revient dans notre cœur. Selon sa promesse, dit l'apôtre, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Non pas selon notre imagination ou selon nos sentiments, mais selon sa parole infaillible, sa promesse. Pour la seconde fois, l'apôtre nous rappelle que c'est sa promesse et que, par conséquent, son accomplissement est certain. Versets 9 et 13. Nous apprenons en outre le caractère qu'auront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce sera une scène dans laquelle la justice habite. Le monde actuel se distingue par toutes les formes de corruption et de violence, de convoitise et d'iniquité. La nouvelle création sera marquée par une justice immuable. Ce ne sera pas le règne de la justice, comme dans les jours du millénium, ce qui implique que le mal est encore là et qu'il doit être réprimé. Dans la scène nouvelle, la question du mal ayant été réglée, la justice habitera. Une fois encore, l'apôtre invite les croyants à laisser cet avenir glorieux exercer actuellement un effet dans leur vie. Savoir que ce monde est voué au jugement devrait conduire à une vie de séparation dans la crainte et la piété. Connaître la bénédiction à venir des nouveaux cieux et de la nouvelle terre devrait nous garder en paix, sans tache et irréprochable. Le terrible état de la chrétienté dans les derniers jours, tel que l'apôtre l'a décrit, pourrait en soi distraire et troubler l'âme. La perspective de cette nouvelle scène fera que nous chercherons à nous conduire de telle manière que lorsque Christ viendra, il nous trouve marchant humblement et paisiblement devant lui, n'étant pas souillé par ce monde, irréprochable dans notre vie, et persévérant dans l'attente, confiant que la patience du Seigneur est salut. Sondons nos cœurs et demandons-nous, comment nous trouvera-t-il quand il viendra ? Voir Luc 12, versets 37, 38 et 43. En termes affectueux, l'apôtre mentionne Paul comme étant avec lui témoin de ces choses pour les croyants hébreux. Il cite les écrits de Paul comme faisant partie des Écritures et il nous met en garde contre les ignorants et les mal affermis qui tordent ses écrits, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Fin de citation. Après nous avoir rappelé ces choses et nous avoir mis en garde contre les faux docteurs, contre les moqueurs des derniers jours et ceux qui tordent les Écritures à leur propre destruction, l'apôtre nous avertit encore de ne pas nous laisser entraîner par l'erreur des pervers, perdant par là notre assurance en abandonnant la fermeté qui est le propre du croyant. Nous devons chercher à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la cinquième fois dans cette courte épître, notre bénédiction est liée à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chapitre 1, versets 2, 3 et 8, chapitre 2, verset 20. L'apôtre a placé devant nous la valeur des écrits prophétiques, les commandements des apôtres et l'immense importance de s'attacher à la parole de Dieu, mais il réalise que la simple connaissance de la lettre ne nous préservera pas. Nous ne faisons un bon usage des Écritures que lorsque nous acquérons par la parole une connaissance plus profonde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen. N'oublions pas le mot « maintenant ». Nous admettons tous que la gloire lui appartiendra à toujours. Mais examinons chacun notre cœur et demandons-nous : est-ce que Christ est glorifié par ma vie, maintenant, déjà ?